Pour connaître cette volonté divine, il faut se laisser guider par la parole de Dieu. Or, c'est elle qui nous promet la guérison. La promesse qui se trouve dans l'épître de Jacques est si formelle qu'il est impossible de la nier. Cette promesse vient confirmer d'autres passages encore également précis, disant que Jésus-Christ nous a acquis la guérison de la maladie, parce qu'il a porté nos maladies. Selon cette promesse, nous avons droit à la guérison, parce qu'elle fait partie du salut que nous possédons en Christ, et qu'ainsi nous pouvons l'attendre avec certitude. Elle nous déclare que la maladie est entre les mains de Dieu le moyen de châtier ses enfants de leurs péchés, mais que cette discipline cesse de s'exercer aussitôt que le malade reconnaît et délaisse le péché. N'est-ce pas nous dire clairement que Dieu ne veut la maladie pour ses enfants que pour les ramener à lui quand ils vont s'égarer au loin? Chrétien malade, ouvre ta Bible, étudie-la et vois dans ses pages que la maladie est un avertissement à renoncer au péché, mais que quiconque reconnaît et délaisse ses péchés, trouve en Jésus pardon et guérison. Telle est la promesse de Dieu dans sa parole. Si le Seigneur avait en vue quelque autre dispensation pour tel de ses enfants, qu'il voudrait rappeler à lui, il lui révélerait sa volonté, lui donnant par le Saint-Esprit le désir de déloger, dans tel autre cas, il ferait naître une conviction particulière, mais comme règle générale, la parole de Dieu nous promet la guérison, en réponse à la prière de la foi. Pourtant, ajoute-t-on encore, ne vaut-il pas mieux s'en remettre pour toute chose à la volonté de Dieu? Et on appuie cette manière de voir de l'exemple de tels chrétiens, qui auraient pour ainsi dire forcé la main à Dieu par leur prière, sans ajouter ta volonté soit faite, et qui n'auraient pas éprouvé de bénédiction de l'exaucement de leur prière? Savons-nous si la maladie ne nous serait pas meilleure que la santé? Observez qu'il ne s'agit pas ici de forcer la main à Dieu, puisque sa parole nous assure que sa volonté est de nous guérir. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu veut que la santé de l'âme ait un heureux reflet sur la santé du corps, que la présence de Jésus dans l'âme soit confirmée par l'état prospère du corps. Et quand vous savez que telle est sa volonté, vous ne pouvez pas en parlant de la sorte dire avec vérité que vous vous en remettez à lui pour toute chose. Ce n'est pas vous en remettre à lui que d'user de tous les remèdes possibles pour vous guérir, plutôt que de saisir sa promesse. Votre soumission n'est autre chose que paresse spirituelle à l'égard de ce que Dieu vous commande de faire. Quant à savoir si la maladie n'est pas meilleure que la santé, nous n'hésitons pas à répondre que le retour à la santé, qui est le fruit de l'abandon du péché, de la consécration à Dieu et d'une communion intime avec Jésus par la foi, vaut infiniment mieux que la maladie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, 1 Thessaloniciens 4, 3, et c'est par la guérison que Dieu en confirme la réalité. Quand Jésus vient, par son esprit, prendre possession de notre corps, et le guérir miraculeusement, quand ensuite la santé reçue doit être de jour en jour conservée par une communion ininterrompue avec lui, l'expérience que nous faisons ainsi de la puissance et de l'amour du Seigneur nous apporte un résultat bien meilleur que ne pourrait l'offrir la maladie. Sans doute la maladie peut nous enseigner la soumission, mais la guérison reçue directement de Dieu nous fait mieux connaître Jésus, nous apprend à mieux nous confier en lui. En outre, elle prépare le croyant à s'acquitter mieux aussi du service de Dieu. Chrétien malade, si tu veux réellement savoir quelle est ici la volonté de Dieu, ne te laisse influencer ni par l'opinion d'autrui, ni par tes anciens préjugés, mais écoute, étudie ce que dit la parole de Dieu. Examine si elle ne te dit pas que la guérison divine fait partie de la rédemption de Jésus, et que Dieu veut que tout croyant ait le droit de la réclamer, vois si elle ne promet pas d'exaucer la prière de tout enfant de Dieu à cet égard, et si la santé rendue par la puissance du Saint-Esprit ne manifeste pas la gloire de Dieu aux yeux de l'Église et du monde. Interroge-la, elle te répondra que selon les volontés de Dieu, la maladie est une discipline occasionnée par le péché, et que la guérison accordée à la prière de la foi témoigne de la grâce divine qui pardonne, qui sanctifie, qui ôte le péché. 15e jour. Discipline et sanctification. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part pour le consacrer à Dieu et à son service. Le temple de Jérusalem était saint, c'est-à-dire qu'il était consacré, dédié à l'Éternel, pour lui servir de demeure. Les vases du temple étaient saints, parce qu'ils étaient destinés au service du temple, les prêtres étaient saints, choisis pour servir Dieu, et prêts à travailler pour lui. De même, le chrétien doit être sanctifié aussi, disposé à servir le Seigneur, propre à toute bonne œuvre. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, l'Éternel le réclama pour son service comme un peuple saint. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », avait-il fait dire à Pharaon. Affranchis de leur dur esclavage, les Israélites devaient entrer aussitôt au service de Dieu et devenir avec bonheur ses serviteurs. L'affranchissement fut pour eux le chemin qui les conduisit à la sanctification. Aujourd'hui encore, Dieu veut se faire un peuple saint, et c'est pour nous amener à en faire partie que Jésus nous a franchis. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. C'est le Seigneur qui brise les chaînes par lesquelles Satan voudrait nous retenir en esclavage. Il veut nous voir libres, tout à fait libres de le servir. Il veut sauver, affranchir l'âme et le corps, afin que chacune des facultés de l'âme, que chacun des membres du corps lui soit consacré et puisse se mettre sans réserve à son service. Un grand nombre de chrétiens ne comprennent pas encore tout cela, ils ne savent pas voir que le but de leur affranchissement est de les sanctifier, de les préparer au service de Dieu. Ils se servent de leur vie, de leurs membres, pour chercher leur propre satisfaction, aussi ne se sentent-ils pas la liberté de demander avec foi leur guérison. C'est donc pour les châtier et les amener à vouloir être sanctifiés que le Seigneur permet à Satan de leur infliger la maladie et de les retenir par la même enchaînés et prisonniers. Luc 13, 11,16. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté et que nous soyons sanctifiés, utiles à notre maître. Hébreux 12, 10, 2 Timothée 2, 21. La discipline qu'inflige la maladie apporte de grandes bénédictions. Elle engage le malade à réfléchir, elle lui fait voir que Dieu s'occupe de lui, cherchant à lui montrer ce qui le sépare encore de lui. Dieu lui parle, il l'appelle à examiner ses voies, à reconnaître qu'il manque de sainteté, et que le but du châtiment est de le faire participer à la sainteté divine. Il éveille en lui le désir d'être éclairé par le Saint-Esprit, jusque dans les replis intimes de son cœur, afin qu'il se rende compte de ce qu'a été sa vie jusque-là, une vie de volonté propre, bien loin de la vie sanctifiée que Dieu réclame de lui. Il l'amène à confesser ses péchés, à les remettre au Seigneur Jésus, à croire que le Sauveur peut l'en délivrer. Il le presse de se donner à lui, de lui consacrer sa vie, de mourir à lui-même pour pouvoir vivre pour Dieu. La sanctification n'est pas quelque chose que vous puissiez accomplir vous-même, elle ne peut pas même être accomplie par Dieu en vous comme quelque chose que vous puissiez posséder et contempler en vous. Non, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de sanctification, qui pourra seul faire passer en vous sa sainteté et la renouveler sans cesse. C'est donc par la foi que vous pourrez participer à cette sainteté-là. Après avoir compris que Jésus vous a été fait de la part de Dieu sanctification 1 Corinthiens 1, 30 et que le Saint-Esprit est chargé de vous transmettre sa sainteté, celle qu'a réalisée sa vie terrestre, abandonnez-vous à lui par la foi, pour qu'il vous fasse vivre d'heure en heure de cette vie-là. Croyez que le Seigneur vous conduira, vous gardera par son esprit dans cette vie de sanctification et de consécration au service de Dieu. Vivez ainsi dans l'obéissance de la foi, toujours attentif à sa voix, à la direction du Saint-Esprit. Dès que cette paternelle discipline a amené le malade à une vie de sanctification, Dieu a atteint son but et il guérira celui qui le lui demandera avec foi. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 10,11. Oui, c'est quand le croyant réalise ce fruit de justice qu'il est prêt à être libéré du châtiment. Oh! C'est parce que les croyants comprennent encore si peu que la sanctification est une entière consécration à Dieu, qu'ils ne peuvent pas croire non plus que la guérison suivra de près la sanctification du malade. La bonne santé n'est trop souvent pour eux qu'affaire de bien-être et de jouissance personnelle dont ils peuvent disposer à leur gré, mais Dieu ne saurait servir ainsi leur égoïsme. S'ils comprenaient mieux que Dieu demande de ses enfants qu'ils soient sanctifiés et utiles à leur maître, ils se seraient pas surpris de le voir accorder guérison et force nouvelle à ceux qui ont appris à mettre à sa disposition tous leurs membres, voulant être sanctifiés et employés à son service par le Saint-Esprit. L'esprit de guérison est aussi l'esprit de sanctification. 16e jour. Pardon et guérison. Or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Matthieu 9, 6 L'homme réunit en lui deux natures. Il est à la fois esprit et matière, ciel et terre, âme et corps. Par là même, d'un côté il est fils de Dieu, de l'autre il est voué à la destruction à cause de la chute, dans son âme le péché, dans son corps la maladie, sont là pour témoigner du droit que la mort a sur lui. C'est cette double nature qui a été rachetée par la grâce divine. Quand le psalmiste fait appel à tout ce qui se trouve en lui pour célébrer les bienfaits de l'Éternel, il s'écrie « Mon âme, bénis l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103, 3. Quand Esaïe prédit la délivrance de son peuple, il ajoute « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Esaïe 33, 24. Cette prédiction s'est accomplie au-delà de toute prévision, lorsque Jésus, le Rédempteur, est descendu sur la terre. Que de guérison il opéra, lui qui était venu fonder sur la terre le royaume des cieux. Soit par ses actes, soit par les ordres qu'il laissa ensuite à ses disciples, ne nous montre-t-il pas clairement que la prédication de l'Évangile et la guérison des malades s'alliaient ensemble dans le salut qu'il apportait? L'une et l'autre sont présentées comme la preuve évidente de sa mission de Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 5. Jésus, qui a revêtu l'âme et le corps de l'homme, les a franchis également des suites du péché. Cette vérité n'est nulle part plus évidente et mieux démontrée que dans l'histoire du paralytique. Le Seigneur commence par lui dire « Tes péchés te sont pardonnés », après quoi il ajoute « Lève-toi et marche ». Le pardon des péchés et la guérison de la maladie vont de pair, car aux yeux de Dieu qui voit l'ensemble de notre nature, le péché et la maladie sont aussi étroitement unis que l'âme et le corps. D'accord avec les Écritures, notre Seigneur Jésus a envisagé le péché et la maladie tout autrement que nous. Pour nous, le péché rentre dans le domaine spirituel, nous le savons sous la réprobation de Dieu, et justement condamné par lui, tandis que la maladie nous paraît au contraire faire partie de l'état actuel de notre nature, et n'avoir rien à faire avec la réprobation de Dieu et sa justice. On va même parfois jusqu'à dire de la maladie qu'elle est une preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Jamais, ni les Écritures, ni Jésus lui-même n'en parle dans ce sens-là, jamais il ne nous présente la maladie comme une bénédiction, une preuve de l'amour de Dieu, qui doit être supportée avec patience. Le Seigneur a parlé à ses disciples des diverses souffrances qu'ils auraient à subir, mais quand il parle de la maladie, c'est toujours comme d'un mal causé par le péché, par Satan, et dont il faut être délivré. Il a solennellement prédit à ses disciples que chacun d'eux aurait à porter sa croix, mais jamais il n'a recommandé à aucun malade de se résigner à être malade. Partout Jésus a guéri les malades, partout il a fait de la guérison une des grâces que procure le royaume des cieux. Le péché dans l'âme et la maladie dans le corps témoignent l'un et l'autre de la puissance de Satan, et le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. C'est pour faire connaître l'amour du Père que Jésus est venu délivrer les hommes et du péché et de la maladie. Dans ses actes, dans ses enseignements à ses disciples, dans l'œuvre du Saint-Esprit, et enfin dans les paroles de ses apôtres, le pardon et la guérison se trouvent toujours ensemble. L'un ou l'autre pouvait sans doute paraître plus en relief, selon le développement, ou la foi de ceux auxquels s'adressaient ses grâces. Tantôt c'était la guérison, qui frayait la voie à l'acceptation du pardon, tantôt c'était le pardon, qui précédait la guérison, celle-ci venant ensuite en sceller la certitude. Dans la première partie de son ministère, Jésus a guéri beaucoup de malades, les trouvant prêts à croire à la possibilité de la guérison. Il voulait par là disposer les cœurs à le recevoir lui-même comme celui qui peut pardonner les péchés. Lorsqu'il vit que le paralytique pouvait recevoir tout de suite le pardon, il commença par là, par ce qui avait le plus d'importance, après quoi vint la guérison, pour mettre le sceau au pardon accordé. Nous voyons par les récits des évangiles que la foi au pardon des péchés était alors plus difficile aux Juifs que la foi à la guérison divine. Aujourd'hui c'est tout le contraire. L'Église chrétienne a tellement entendu prêcher le pardon des péchés que l'âme altérée de salut reçoit facilement ce message de grâce, mais il n'en est pas de même de la foi à la guérison divine. On n'en parle plus guère, et ils sont rares les croyants qui en ont fait l'expérience. Il est vrai que la guérison n'est pas accordé aujourd'hui, comme en ces temps-là, à des foules que Christ guérissait sans conversion préalable. Il faut pour la recevoir commencer par confesser ce péché, et vouloir vivre d'une vie sanctifiée. Voilà sans doute pourquoi on a plus de peine à croire à la guérison qu'au pardon, voilà aussi pourquoi ceux qui reçoivent la guérison reçoivent en même temps de nouvelles grâces spirituelles, se sentent plus étroitement unis au Seigneur Jésus et apprennent mieux à l'aimer et à le servir. L'incrédulité a beau séparer ces deux grâces, toujours elles restent réunies en lui. Toujours Jésus est le même sauveur et de l'âme et du corps, prêt à accorder également et le pardon et la guérison. Toujours donc le racheté pourra s'écrier mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 3. 17e jour. À cause de votre incrédulité. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, Matthieu 17, 19,20. Lorsque le Seigneur Jésus avait envoyé ses disciples dans les diverses contrées de la Palestine, il les avait doués d'une double capacité, celle de chasser les esprits impurs et celle de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1, il avait fait de même pour les 70, qui revinrent à lui tout joyeux, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Luc 10, 17, le jour de la transfiguration, pendant que le Seigneur était encore sur la montagne, un père amena aux disciples son enfant possédé du démon, les priant d'expulser le mauvais esprit, mais ils ne le purent pas. Lorsque plus tard, Jésus eut guéri l'enfant, ses disciples lui demandèrent pourquoi ils n'avaient pas pu le faire eux-mêmes, comme dans d'autres cas. Il leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité, c'était donc leur incrédulité, et non la volonté de Dieu, qui avait été la cause de leur défaite. » De nos jours, on ne croit plus guère à la guérison divine, parce qu'elle a presque entièrement disparu dans l'Église chrétienne. On se demande quelle en est la raison, et voici ce qu'on a répondu. La plupart des chrétiens pensent que les miracles, y compris le don de guérison, devaient se limiter au premier temps de l'Église, qu'ils étaient destinés à établir les premières bases du christianisme, mais que dès lors les circonstances ne sont plus les mêmes. D'autres croyants n'hésitent pas à dire que si l'Église a perdu ses dons, c'est par sa faute. Et parce qu'elle s'est mondanisée, que si l'esprit n'agit plus que faiblement en elle, c'est parce qu'elle n'est pas restée en rapport direct et habituel avec la toute-puissance du monde invisible, mais que si de nouveau elle voyait s'accroître dans son sein le nombre des hommes et des femmes qui vivent de la vie de la foi et du Saint-Esprit, entièrement consacrés à leur Dieu, elle verrait encore se manifester les mêmes dons qu'autrefois? De ces deux opinions, laquelle se rapproche le plus de la parole de Dieu? Est-ce par la volonté de Dieu que le don de guérison a été supprimé, ou bien est-ce par la faute des hommes? Dieu ne veut-il plus que ces miracles aient lieu? Par conséquent, ne veut-il plus donner la foi qui les produit? Ou bien l'Église est-elle ici coupable d'avoir manqué de foi? Que dit l'Écriture? La Bible ne nous autorise, ni par les paroles du Seigneur, ni par celles de ses apôtres, à croire que le don de guérison n'eût été accordé qu'au premier temps de l'Église. Au contraire, la promesse que fit Jésus aux apôtres lorsqu'il les instruisit de leur mission peu de jours avant son ascension nous paraît concerner tous les temps. Marc 16, 15-18. Paul place le don de guérison au nombre des opérations du Saint-Esprit. Jacques donne un commandement précis à cet égard, sans aucune restriction de temps. Partout, l'Écriture déclare que ces grâces seront accordées selon la mesure de l'Esprit et de la foi. On allègue encore que c'est à l'entrée de chaque économie nouvelle que Dieu opère des miracles, que c'est là la voie qu'il suit généralement, mais il n'en est rien. Voyez le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance au temps d'Abraham, tout le long de la vie de Moïse, à la sortie d'Égypte, sous Josué et, à l'époque des juges et de Samuel, sous le règne de David et d'autres rois pieux jusqu'à Daniel, pendant plus de 1000 ans, il s'est fait des miracles. Les miracles, dit-on aussi, étaient beaucoup plus nécessaires dans les premiers temps du christianisme que plus tard, mais c'est ne pas faire entrer en ligne de compte la puissance qu'aujourd'hui encore le paganisme, partout où l'Évangile cherche à le combattre. Impossible d'admettre que les miracles auraient été plus nécessaires pour les païens de l'Église d'Éphèse, acte 19, 6,11 qu'ils ne le seraient, aujourd'hui pour les païens de l'Afrique, et si nous songeons à l'ignorance et à l'incrédulité qui règne au milieu même des peuples chrétiens, ne sommes-nous pas obligés de conclure à la nécessité d'actes manifestes de la puissance de Dieu pour appuyer le témoignage des croyants et prouver que Dieu est avec eux? En outre, parmi ces croyants eux-mêmes, que de doutes et que d'élanguissements. Quels besoins n'ont-ils pas d'être réveillés et stimulés dans leur foi par quelques preuves évidentes de la présence du Seigneur au milieu d'eux ?